Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est oui, l'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit, l'After à la radio sur RMC, à la télévision sur RMC Sport News, l'After la seule émission en France en direct, 7 jours sur 7, casting du soir. Bonsoir Jonathan Macardy.
Bonsoir les amis.
Bonsoir Damien Perrinel.
Et rebonsoir tout le monde.
Et on s'est régalé ce soir, on va y revenir en longueur sur la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les 8e de finale de la Coupe de France, vainqueur 4-3 dans la douleur, match hyper spectaculaire, début, une révélation si c'en est une encore, et Anne Cherki un doublé. Appelez-nous supporters Lyonnais 32-16. Il va falloir y aller tranquille, ce joueur, il n'a que 16 ans. On est d'accord ? Enfin, on va en parler nous, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Comment on gère ce cas, un gamin de 16 ans, si talentueux, si fort déjà, auteur d'un doublé, qui bat déjà des records de précocité, comment gérer son cas? Appelez-nous supporters Lyonnais, vous qui le suivez depuis plus longtemps que nous, peut-être Ryan Cherki, le 32-16, hashtag RMC Live, l'application RMC Sport Direct Studio. On va évoquer également le mercato avec l'info Cavani. Il y a bien eu une offre ces dernières heures de l'Atlético de Madrid pour Cavani, pour le faire venir et le faire quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver, c'est important de le préciser. D'autres infos transferts qui concerne Lyon justement, avec Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. Et bien sûr, on parlera du FC Nantes. Appelez-nous supporters nantais, on est ensemble. Mais d'abord, messieurs, l'essentiel, c'est les trois points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Ouais. Jonathan.
Écoute, le premier point, c'est que c'est une victoire. Alors le match, évidemment, t'as souligné le spectacle. C'était un match qui était hyper spectaculaire. Pas forcément très au point tactiquement les deux équipes, notamment défensivement, mais on s'est régalé. Le deuxième point, c'est sur Lyon et sur Ryan Cherki, qui a été vraiment, voilà, c'est peut-être le match où il peut se révéler et être plus qu'intéressant dans la rotation lyonnaise. Mais attention à ne pas non plus s'emballer et à le griller. Et le troisième point, c'est l'offre de Cavani qui est rejetée par le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est une très bonne chose que le PSG conserve Cavani au moins jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il risque d'en avoir besoin.
Damien.
Eh ben, mon premier point, il va être dédié à Rudy Garcia, parce qu'il a su quand même mettre un soutien à Dembélé avec Ryan Cherki et il s'est adapté tactiquement. Je trouve que ça a apporté ses fruits ce soir. Mon deuxième point, malheureusement, tout n'a pas été rose non plus à Lyon avec cette défense qui a été prise à défaut plusieurs fois. Et côté Nantais, pour mon troisième point, ça va être cette apathie lors des 20 premières minutes. Et c'est fort dommage parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont montré un autre visage. Mais là encore, un Palois absent et toute une défense est dépeuplée.
Voilà pour les trois points de Damien et de Jonathan. On va développer tout ça. Appelez-nous au 32-16, supporters lyonnais, supporters nantais également, supporters parisiens, je vous le disais en intro. On va parler du cas Edinson Cavani. Faut-il absolument le garder? On rappelle l'offre de 10 millions d'euros de l'Atlético de Madrid, hein, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Cédric, supporter de l'OL au 32-16, est avec nous. Bienvenue dans l'After, Cédric.
Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir la sœur.
Salut Cédric.
Bon, t'as eu peur, j'imagine. Tu t'es régalé. Match ascenseur émotionnel.
Ouais, totalement. Quand on est supporter, en tout cas, devant la télévision, c'est même devant des matchs comme ça. Quand on est coach, ça l'est peut-être un peu moins. Maintenant, Lyon, bah, comme d'hab, hein, irrégulier. Ça change pas au niveau de chaque année. Belle première mi-temps, en tout cas, j'ai trouvé. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. J'ai trouvé que c'était intéressant dans le jeu. Ça allait vite vers l'avant, ça concrétise. Ouais. Le petit Cherki qui met un doublé en 10 minutes, c'est bien pour lui, ça lui donne confiance pour la suite.
Les deux passes
et
aussi.
Après,
hein.
deuxième mi-temps, ça fait plus les efforts. Je crois que le match est acquis et malheureusement, 4-2, 4-3 et voilà, ça a failli se faire égaliser. Maintenant, on passe, c'est le principal, c'est ce qu'on va retenir. Mais belle première mi-temps, mais comme d'hab, Lyon, une mi-temps sur deux, comme d'habitude, comme ce qui s'est passé l'année dernière. Je parle pas du début de saison parce que c'est cata depuis le début, mis à part à Bordeaux. Il y a eu un bon match fait de l'ensemble de l'équipe et voilà, bah là, pas le premier mi-temps et deuxième mi-temps, ouais. Comme d'habitude, il y a plus le Lyon, il y a plus un bon Lyon, comme ça, on peut pas aller loin.
Est-ce que de toute manière sur ce match-là, on n'a pas vu les fébrilités habituelles de l'Olympique Lyonnais, comme tu le soulignais très justement, c'est-à-dire que défensivement. T'es quand même un petit peu à la ramasse, il faut le dire. Et là, avec un Nantes que j'ai trouvé ce soir très bon sur du point de vue offensif, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard de la recrue de Aymon. Voilà, c'est simplement que cette équipe, elle a tendance à être très facilement déséquilibrée, et que derrière, quand t'as un joueur comme Andersen qui est totalement à la ramasse, quand t'as tes latéraux. ouais, quand t'as tes latéraux qui sont pas non plus hyper en confiance défensivement, bah voilà, t'es forcément, tu te mets en danger.
Non, ouais, mais totalement. Mais moi, bah, comme j'ai tout le temps, comme je l'ai dit au début, Lyon n'est jamais régulier. Quoi qu'il arrive, Lyon est capable de battre des grosses équipes. Ils l'ont fait. Moi, je suis même persuadé qu'ils vont faire un match excellent contre la Juventus à domicile. J'en suis mais quasiment sûr. Sauf que Lyon n'est pas régulier. Bah, et Lyon ne le sera
avec
jamais.
Avec sa défense, non.
Après, Cédric, on pouvait s'attendre à un autre visage de Nantes aussi en deuxième période, parce que c'était tellement, le néant en première période, que forcément, il y a une réaction. Là où j'ai des réserves, c'est surtout sur cette capacité à subir le jeu comme ça a été le cas sur la deuxième période. Et on voit que dès qu'il y a un peu de pression et un peu de pression sur les centraux, sur les latéraux, c'est fébrile. Tout de suite, c'est fébrile. Et dès qu'on fait un tout petit pressing, tout de suite, les ballons partent en touche aussi. Et il n'y a pas de fond de jeu. Ça repart pas proprement, en tout cas.
Non, mais totalement. Après, Anderson, on en a fait une montagne quand il est arrivé. Comme quoi, c'était le nouveau Thiago Silva. Il est très, très loin d'être le nouveau Thiago Silva. Hein.
Il fait encore son pire match depuis le début de la saison. Il n'est pas bon depuis le début de la saison.
Non, mais les gars, c'est un bon joueur, mais je pense qu'il est. Il s'est pas adapté.
C'est quoi pas s'adapter les gars en fait, c'est quoi, c'est aussi le jeu de la Ligue 1, du français, l'environnement lyonnais, c'est
non changer de championnat.
Oui, mais d'accord, ok, ça on sait.
Changer de pays, ça compte quand même aussi.
Oui, enfin
la langue, etc.
Ça reste sur
la
team quand même.
Je vais vous dire, pour Anderson, le souci de ce joueur, c'est qu'il est arrivé à Nantes avec l'étiquette du plus gros transfert
24 millions lyonnais,
voilà. Il a voulu prouver rapidement, le montrer que c'était lui le patron. En fin de compte, il s'est cassé la figure complètement parce que ses premières prestations étaient déjà catastrophiques. Ça fait que depuis, il essaye d'en rajouter, de surjouer. Mentalement, je pense qu'il est dans un creux, c'est affreux, il est au fond de la piscine. Et c'est-à-dire qu'en fait, il surjoue à chaque fois. Il joue plus naturellement, il pense trop sur ses déplacements, sur ses relances. On voit qu'il n'y a aucune spontanéité, c'est jamais tranchant. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème mental chez lui.
Parce que, tu sais, on regardait là, en haut à la rédac, on regardait, je crois qu'on était vers la 60e minute, le nombre de duels remportés, duels perdus. Et en fait, de la tête, je crois qu'il en était un duel à un remporté sur 5 ou 6, alors qu'il fait quand même 1m90 et que c'est censé être un de ses points forts. C'est bizarre.
Non, mais oui, gars, ce soir, il a appliqué sur 3 buts ou 2 buts nantais.
Oui,
mais justement,
il fait
des choses qui pourraient paraître simples et basiques pour un défenseur central lambda, bah pour lui, ça y est, c'est plus dans son disque dur, on va dire.
Ouais. Après, t'as raison, c'est vrai qu'il n'est pas rassuré par...
Que lui, parce que Thiago Mendes qui franchement, sincèrement, quand il est arrivé à Lyon, j'étais super content parce que moi, je le voyais partir dans un très gros club anglais ou espagnol, même allemand. Quand j'ai arrivé à Lyon, franchement, super content. Il n'a pas le rendement qu'il a eu l'année dernière à Lyon.
Il n'a pas assez. Alors, je pense que le problème de Thiago Mendes, il est un peu plus compliqué dans la mesure où, premièrement, alors même si ce soir, vous jouez en 4-2-3, mais il n'a pas non plus souvent joué dans un système qui lui convient, c'est-à-dire, je pense, à deux milieux. Et je n'ai pas trop compris, en fait, son utilisation parce que quand il est arrivé, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on pensait tous qu'il jouait devant la défense.
Ouais, totalement.
Il a pas vraiment souvent joué devant la défense.
Bah non, parce qu'il a eu tout ça.
Voilà. Il joue plus, un petit peu plus haut.
En 8,
et je pense que c'est pas vraiment un relayeur. Il a les qualités pour jouer à ce poste-là, mais je pense que si tu veux maximiser son potentiel, c'est un joueur qui doit être devant la défense, comme il était à Lille, où il était effectivement très fort.
Dis-moi, Cédric, est-ce que tu réclames le retour de Marcelo en tant que titulaire?
Bah là, t'es obligé, hein.
C'est pareil, hein, dans ces cas-là.
Vous avez Mapou.
J'allais faire rigoler la France entière, mais je pense que Rudy Garcia, c'est peut-être le seul mec au monde qui est capable de redonner confiance à Mapou et Ngambiwa, parce que quand il était à Rome avec Rudy Garcia, il a été excellent.
Non. Excellent, t'exagères, Cédric, excellent, arrête.
Mais même au-delà de ça, sur ce soir, les gars, franchement, quand t'as Anderson.
Il peut pas être moins
fort qu'Anderson.
Non, mais quand t'as Anderson à côté, déjà, t'es Anderson, t'es fébrile, t'as la tremblote à chaque fois que t'as le ballon, et en plus de ça, à côté, t'as TT qui est pas non plus là pour te rassurer. Et je peux te dire que ça doit pas être facile, hein. Et du coup, les deux, on a l'impression qu'ils ont fait un concours pour celui qui était le plus fébrile ce soir. Et ce qui fait que t'as tout le flanc droit de ta défense déjà qui est à l'ouest.
Bon les gars, merci.
Même quand on parle du mercato lyonnais, en début, il y a des noms qui sont cités qui sont quand même assez jolis. Et maintenant, on parle de l'attaquant de la Gantoise. On parle de Toko Ekambi. Attention, c'est un bon joueur. Il a des très belles stats à l'arrière, mais c'est pas quelque chose qui fait bander. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. c'est un très bon joueur.
Il ouais, mais c'est dur. Je sais pas, Cédric, c'est un marché d'hiver. Il faut trouver des bons coups à faire, des joueurs susceptibles de partir. Kadewere, on en parlera dans un instant, et Togo Kambi. C'est pas si mal, ça, d'attirer ce genre de joueurs.
Cédric, j'ai juste envie de te dire, Cédric, Nico l'a très bien dit, t'es en hiver. Et imagine, tu prends Toko Ekambi et ton option d'achat, elle est pas obligatoire. Est-ce que tu craches dessus?
C'est parfait, mais je crois qu'elle sera obligatoire, elle sera obligatoire, 20 millions.
Elle sera obligatoire,
20 millions d'euros.
Merci Cédric.
Ciao, ciao Cédric.
Excellente soirée à toi, tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Ciao.
Ciao, bye. Les gars, Lyon est qualifié. Lyon est sur 6 matchs sans défaite d'affilée, 5 victoires en 6 matchs. Lyon a marqué 21 buts lors de ces 6 derniers matchs. Bon, il y a eu Bourque en Bresse évidemment entre-temps, mais quand même, Lyon a mis 4 à Toulouse. Certes, c'est pas un exploit. Lyon a gagné à Bordeaux. Lyon a battu Brest 3 buts à 1. Lyon bat Nantes ce soir à Nantes 4 buts à 3. C'est mieux, ça prend forme le Lyon de Rudy Garcia.
Non, mais on peut pas nier quand même qu'il y a une amélioration avec ce qui
Jeudi l'a dit avant-hier.
Début décembre, même alors la prestation de Bordeaux est à relativiser quand on voit le niveau de Bordeaux finalement contre Pau 3 jours après. Mais ils ont pris le match par le bon bout et encore, j'ai même envie de te dire contre Bordeaux, ils peuvent même faire match nul à la fin parce qu'ils ont tellement vendangé d'occasions.
Oui, mais ça aurait pas été logique.
Mais ça aurait pas été logique, exactement. Mais sinon dans l'ensemble. Là, ça fait longtemps, moi, j'ai pas vu un match de Lyon aussi attractif offensivement, tout du moins, où on voit des joueurs qui font des efforts, il y a des appels en profondeur. Maxwell Cornet, arrière gauche, à moitié arrière gauche, à moitié milieu gauche, l'idée est pas idiote. Donc, je trouve que, en tout cas, dans l'utilisation du ballon, c'est pas si mal.
Et Cherki en 9,5 également. On va parler de Cherki dans un instant, messieurs.
9,10, ouais. Mais le problème de ce Lyon-là, de toute manière, c'est que, offensivement, même si t'as pas Memphis et Jeffrey Adélaïde, t'as quand même une équipe qui est capable de faire du jeu, qui a de l'inventivité, de l'insouciance avec les jeunes. On a parlé de Cherki. Mais le problème, c'est derrière. C'est vraiment derrière.
Ah, mais regarde, justement, et Jonathan, le fait de pas avoir Memphis et Ren Adélaïde, t'as l'impression que t'as des joueurs qui sont décomplexés et qui ne sont plus obligés tout le temps de donner le ballon à Memphis.
Comme lesquels?
Parce que c'est lui qui a les clés du jeu, absolument.
Tu penses à qui? À Dembélé?
Ouais, Dembélé, qui est libéré peut-être, et même les joueurs, d'autres joueurs sur les côtés, on voit des joueurs qui prennent des décisions, qui sont plus,
entreprenants.
Plus entreprenants, exactement, dans le jeu, qui prennent plus de responsabilités.
Moins inhibés, ouais.
Voilà. En tout cas, Lyon n'a pas fait une série, comme celle-ci, cette saison, de 6 matchs sans défaite, avec Depay et Jeffrey Adélaïde. De là à dire que Lyon est meilleur sans ces deux joueurs-là,
non, c'est pas ce que je dis, mais en revanche, c'est dur de te priver des bons joueurs, à chaque fois, c'est évident, mais t'as peut-être un collectif aujourd'hui qui est plus cohérent.
Mehdi, supporter de l'OL, est avec nous. Bienvenue dans l'After, Mehdi.
Salut Nicolas, salut
Mehdi.
Salut Mehdi.
Bon, t'en as pensé quoi de ce match? Est-ce que t'es d'accord avec nous que Lyon, ce Lyon-là de Garcia, est en train de prendre forme tout doucement?
Ça dépend de ce qu'on appelle prendre forme quand tu joues contre Brest, Bourg-en-Bresse et Nantes en coupe, quoi, Bordeaux un peu malade, quoi. Donc c'est toujours pareil.
Il y a trois mois, dans les équipes moyennes, Lyon n'arrivait pas à gagner, tu sais aussi.
Tu remontes au classement, tu passes les tours en coupe, mais ce que je vois à chaque fois, c'est toujours pareil. Alors là, j'ai bien aimé la première mi-temps. Bon, on va pas refaire sur Andersen le prix, etc. Ouais, je pense que c'est Marcelo qui va jouer, on va dire là. Il a fait tourner parce qu'il y a le match contre Lille, la demi contre en Coupe de la Ligue qui est importante. Donc je pense qu'il a fait tourner dans cette optique-là, Rudy Garcia. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un peu plus étoffer l'effectif pour pouvoir, parce que là, on sent que bon, ça passe pour ce soir, etc. Mais c'était que Nantes en face, quoi. Je veux dire, ils ont pris un attaquant belge parce qu'ils ont personne devant. Moïse Simon, il a fait quand même un peu la misère à Tété et Anderson ce soir. Franchement, c'est-à-dire que si on reste comme ça avec le même effectif, il faut vraiment de la qualité en termes de recrues. Moi, latéral gauche, Maxel Cornet, ça me fait peur. Je dis oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore avec le ballon. Donc déjà, je préfère qu'il perde à 70 mètres du but qu'aux 25 derniers mètres. Et puis après, bah va falloir surtout être intelligent dans le recrutement. Et Karl Toko Ekambi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Vaut mieux regarder Guiri, vaut mieux faire jouer Cherki. Soit le petit Cherki aujourd'hui, il a 16 ans, il rentre en Coupe de France. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé, je me rappelle de Benzema à 17 ans. Au début, il a mis par parcimonie, puis après, il a commencé à gagner sa place. Donc voilà, donc maintenant, c'est bien que Garcia l'a lancé, parce qu'au moins, là, il lui donne raison sur ce match-là. Et puis maintenant, il va rentrer dans la rotation des joueurs offensifs, mais bon, il y a des joueurs où c'est toujours pareil. Hein. Moi, Mendes, je ne connais pas. Andersen, c'est catastrophique. Donc maintenant, on va attendre surtout que les joueurs se ressaisissent et il va falloir lâcher les chevaux pour essayer de remonter à la troisième place du classement.
Mehdi, t'as dit un mot qui est très juste sur quand tu parlais de Cherki, et je vais souligner ce que tu as dit parce que ça, il me semble que c'est important de le faire. C'est Cherki sera dans la rotation. Voilà, bien la sûr, rotation. Bien sûr, voilà. C'est un joueur qui a fait un match étincelant ce soir, qui a des qualités qui sont évidentes, mais il doit être dans la rotation et pas plus. On ne doit pas baser tous les espoirs lyonnais de remonter le classement.
On va voir comment il va évoluer aussi au cours des prochaines semaines. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau de tout ça, est-ce qu'il y aura une enflammade de son côté?
Ne le
crions
pas parce qu'il a vraiment d'avoir un sacré potentiel.
Bien sûr qu'il a du talent, mais on va se calmer aussi.
Ce serait quoi le griller justement? Ce serait de le faire enchaîner les matchs dès maintenant. Après t'en as besoin. Si le gars il plante des doublés ou il plante 4 buts sur 5 matchs,
je te réponds simplement.
C'est dommage, t'en priver. T'as pas forcément les moyens de t'en priver aujourd'hui.
Je te réponds simplement. Le griller, ça serait faire reposer tous les espoirs et toutes les fondations du jeu offensif lyonnais sur Ryan Cherki.
Et même sur Maxence Cacré, je te dirais. Malheureusement, c'est comme ça. Mais t'as deux très bons jeunes, c'est vrai, qui peuvent vraiment intégrer une rotation, et parce que c'est vrai que Cacré,
c'est pas moi, pareil Cacré.
Et moi je suis vraiment surpris par ce joueur parce que l'ayant vu jouer plusieurs fois, tu sens que il y a une certaine maturité dans son jeu et
malgré son jeune âge, il a du vice.
C'est ça exactement. Mais quand même t'es l'OL et si tu te reposes sur ces deux jeunes, ça peut faire juste sur le long terme quand même.
Damien, juste je pense que Cacré, je le vois plus être facilement titulaire à Lyon, et je pense que ça, parce que c'est simplement pas le même poste, en fait. Ouais. Je pense que si Cherki passe à travers d'un match, parce qu'on attend lui qui, des stats, quand même, voilà, on attend qu'il marque, qu'il fasse des passes décisives, qu'il soit décisif dans le jeu offensif lyonnais, qu'a créé leur rôle quand même un petit peu plus dans l'ombre, et je pense que Cacré par contre pour le coup tu peux vraiment compter sur lui parce que outre le fait qu'il soit très bon, je trouve que dans son jeu, comme on le disait, il a montré une très grande maturité.
Et les gars, restons sur Cherki quand même parce que c'est voilà, ça fait le buzz. Ce soir, il met un doublé, il fait deux passes D. C'est peut-être un match qui va lancer sa carrière en France ou international. Attends, juste une chose. Quand même, je pose la question, elle est un peu provoque. Hein. Est-ce que Lyon, on sait que Lyon est sur Toko Ekambi et en plus, je dis bien en plus, sur Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2, 18 buts en 20 matchs. Est-ce qu'il est utile pour Lyon de recruter deux attaquants? Quand tu vois ce que le match qu'il fait ce soir.
Mais pour moi, Cherki, déjà, c'est pas du tout le même profil des deux joueurs qui sont ciblés, c'est pas le même poste.
Bah là, il a joué 9,5 ce soir.
Il a joué 9,5, mais un Toko Ekambi, ça peut jouer côté droit, ça peut jouer en pointe.
Kadewere, c'est une pointe.
Donc, c'est pas vraiment Cherki quand même.
Kadewere, je pense que c'est important. C'est pas de refus s'il arrive à Lyon, parce que deux choses. La première, c'est que c'est un investissement pour l'avenir. Je pense que c'est un joueur sur lequel tu pourras compter la saison prochaine.
Oui, en cas de départ très possible de Dembélé l'été prochain.
Tu peux lui laisser 6 mois pour s'adapter. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire guérir le départ de Dembélé. Je te dis pas que s'il a forcément le potentiel pour être titulaire dans un Lyon qui est ambitieux à l'échelle domestique et européenne, mais c'est quand même un joueur qui est prometteur. Sur Toko Ekambi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il peut jouer, comme Damien l'a dit, il peut jouer sur le côté. Il est ultra polyvalent et de toute manière, c'est trop court offensivement en termes de nombre, en termes de quantité. Donc deux joueurs, ça me semble être le minimum. Après, est-ce que c'est les deux joueurs que les mieux pour prendre, voilà, on sait pas parce que c'est un marché qui est compliqué, c'est l'hiver, c'est un marché d'opportunité. Moi je t'ai dit, j'aurais préféré que l'option d'achat sur Toko Ekambi ne soit pas obligatoire parce que ça n'aurait pas engagé Lyon sur un joueur que j'aime beaucoup mais qui à mon sens n'a pas le qui a 27 ou 28 ans, qui voilà, qui est déjà un petit peu âgé et qui n'a pas le niveau pour figurer dans un Lyon qui est ambitieux à l'échelle européenne comme Lyon doit l'être avec propriété du stade et compagnie, comme on nous l'avait annoncé avant l'été. Mais voilà, deux recrues, c'est le minimum.
Moi, je n'irai pas jusqu'à...
Vas-y, excuse-moi Damien, vas-y Mehdi.
Non, je suis d'accord avec Jonathan, mais après, il faudrait peut-être prendre dans ce cas-là des profils si... On ne sait pas si Garcia va jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 jusqu'à la fin de la saison, depuis que Memphis et Adelaide se sont fait les croisés. Donc dans ce cas-là, si tu veux vraiment jouer en 4-3-3 jusqu'à la fin de ta saison, il faut te prendre un joueur de couloir et pas forcément prendre Toko Ekambi et le joueur du Havre. Il faut vraiment prendre un joueur plutôt profil couloir. Parce qu'il n'y a que Cornet, Traoré et Terrier pour jouer sur les couloirs.
Mais Terrier, c'est même pas un joueur de couloir.
C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce que j'allais dire, Mehdi. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, tu as Rudy Garcia qui veut ses deux recrues. Pourquoi? Parce qu'il est sur quatre tableaux. Tableaux. Non, mais là, tu as ton match de Coupe de la Ligue mardi. Et après, il ne te reste plus qu'une finale. Donc, en gros, tu es sur trois tableaux. Ensuite, on va pas se mentir quand même, la Juventus, ce serait un énorme exploit
même
sur
avec
un
Memphis,
match aller-retour, même avec Memphis, même avec qui tu veux, de passer quand même. Donc ça veut dire que tu vas jouer quoi, la Coupe de France, et il faut que tu remontes contre la Champions League.
Mais il faut que tu remontes au championnat aussi.
Exactement. Donc est-ce que tu n'as pas un effectif suffisant si tu n'en prends qu'un seul?
Moi, je vous dis juste, les gars, je vous propose un truc, c'est que moi, je pense la stratégie, alors évidemment, sans, parce que Jean-Michel Aulas est très compétent et c'est sûrement mieux que moi ce qu'il faut faire avec son club, et moi, je pense que la solution idoine, elle aurait été de miser sur des prêts de joueurs qui doivent se relancer en vue de l'Euro, pas forcément des Français, hein, mais voilà, des équipes qualifiées pour l'Euro, de miser sur des prêts, de pas t'engager, pas t'engager, mais surtout de chercher des joueurs en prêt, et de ne pas t'engager sur la saison prochaine, parce que je pense que de toute manière, ce projet, on nous avait annoncé la grande révolution, le grand soir presque, quand Juninho et Silvinho sont arrivés avec Jean-Michel Aulas qui devait se mettre en retrait. Je pense que cette révolution, elle était nécessaire, et que même si ça a foiré cette saison, voilà, c'est une saison qui est perdue, mais ce processus doit reprendre son cours à l'été prochain. Et si ce processus reprend son cours, ne va pas t'engager avec des joueurs sur 3-4 ans en hiver juste pour sauver les meubles sur 6 mois. Je pense que les meubles peuvent être sauvés vu comment le championnat est, en misant sur des prêts.
Jonathan ?
Ouais ?
Ouais, non, je sais pas si t'as entendu parler de la piste Ricardo Rodriguez couloir gauche, parce que là, avec Marcel, à chaque fois qu'il prend,
moi, je l'adore, Ricardo Rodriguez, mais il est cramé.
Et il joue pas, voilà, mais il joue plus beaucoup. Mais est-ce que tu peux pas, là, justement, dans cette optique-là, lui qui doit international suisse espérer revenir jouer un petit prêt de 6 mois sans option d'achat? Pourquoi pas? Parce que moi, je pense que Lyon, ils ont besoin de joueurs qui ont un peu de bouteille, qui ont un peu d'expérience, etc., pour apporter un peu de sérénité,
sérénité
à cette équipe derrière. Et donc Ricardo Rodriguez, on ne sait pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas.
Le truc, c'est mon pote, c'est qu'on a vu avec la Suisse notamment, c'était une vraie bombe sur son couloir.
Moi, maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Moi, je le vois en sélection, il est bon. Moi, chaque fois que je le vois en sélection aux éliminatoires, il fait des matchs sérieux, il est bon. Donc après, je ne sais pas si Lyon, j'en ai entendu parler à un moment donné, c'est ce genre de joueur à relancer.
C'est
après,
le profil.
Voilà, il a le profil.
Lui, ça aurait été du Zonzi, ça aurait été ce genre de joueur, tu vois, voilà, qui doit vraiment avoir du temps de jeu en vue de l'Euro.
Tiens, les gars.
Sachant qu'on sait pas si Tozard va partir aussi, hein, toujours en discussion.
Il y a des chances encore en discussion avec le Hertha Berlin. Tiens, juste préciser les infos, Tino Kadewere, je rappelle, Lyon avait fait une première offre, il y a une semaine de 7 millions d'euros, refusée par Le Havre. Lyon a refait une offre de 14 millions d'euros, ils ont doublé leur offre, refusée par Le Havre. Mais, selon nos informations, Le Havre serait prêt à céder à 15 millions d'euros pour cet attaquant à 18 buts cette saison, 20 matchs, deuxième saison au Havre, hors bonus, 15 millions d'euros hors bonus. Les deux clubs ont prévu de se revoir en début de semaine prochaine pour finaliser le dossier. Juste pour Cherki, messieurs, je pose une question parce que c'est vrai, en y pensant, en y réfléchissant, il faut le protéger. Il a 16 ans, 16 ans et demi, pourquoi le protéger en fait? Parce que... Le talent n'a pas d'âge et n'attend pas, effectivement. Il peut enchaîner les matchs. Si ce garçon est si précoce que ça.
Mais tu peux enchaîner les matchs
plan de
à
début.
Un moment, physiologiquement, morphologiquement, est-ce qu'il est... Alors après, il m'a l'air d'être assez gaillard quand même.
Ah ouais, le gars, il est construit déjà, quoi.
Presque fini, en effet. Mais tu peux prendre l'exemple de la gestion de Julien Stéphan à Rennes avec Kamavinga. Où au début, le problème de ça, c'est qu'au début, il a voulu préserver. Et puis, il s'est rendu compte qu'il était indispensable dans son jeu. Et
il a 17 ans, il enchaîne les matchs quand même. Mais c'est pas le même poste.
C'est pas le même poste, mais oui,
c'est
mais
pour ça que je te dis sur Cacré,
développe.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense quand je faisais la différence entre Cacré et Cherki, c'est qu'il y en a un, tu vas t'attendre forcément à ce qu'il soit saillant sur le point de vue des stats, qu'il soit décisif, qu'il ait de l'impact, qu'il marque des buts, qu'il fasse des passes alors que Cacré ou Kamavinga, ils ont des rôles plus obscurs, tu vois, ou s'ils passent à travers un match, ça se voit beaucoup moins. Là, c'est quand même Cherki. En plus, il joue le poste, son poste, c'est d'être le chef d'orchestre de cette équipe-là. C'est beaucoup quand même.
Malheureusement, je pense que t'as pas forcément de règles avec les jeunes joueurs. Si t'as quelqu'un qui est prêt, jeune, qui est fait physiquement et mentalement surtout, c'est ça. C'est là où Kamavinga, je sais, est très très fort et c'est qu'il est mûr en fait. Il a une mentalité, il est extraordinaire apparemment au quotidien ce jeune joueur. Donc lui. Voilà, mentalement, il est prêt à être au niveau.
Oui, bien sûr.
Ryan Cherki, je ne sais pas, je ne connais
voir.
Pas.
Après, il y a un truc qui est très drôle, en fait, dans cette histoire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on nous avait annoncé le grand soir, la révolution, le changement de paradigme lyonnais, Juninho, etc. Et au final, sur ces 6 mois, qu'est-ce que c'est la tendance, quand tu prends le pouls auprès des supporters lyonnais, pour sauver les meubles? C'est de revenir aux bonnes vieilles recettes, Gouiri, Cherki, Cacré. Au final, tu n'arrives pas vraiment à changer. Et la question que je me pose, c'est... Mais Nico, la question que je me pose, et qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'ADN, finalement, de l'Olympique lyonnais, c'est pas justement de miser sur le local, quoi? Tout simplement. Et que de vouloir aller dans le cours de l'histoire, c'est pas bon,
Vas-y, Mehdi, tu conclus.
Non, juste pour dire que... C'est surtout que le changement de paradigme, Lyon, ils ont mis beaucoup de choses, c'était sur les recrues. Mais franchement, il n'y en a aucune. Thiago Mendes, 25 millions, il n'est pas à la hauteur sur les six premiers mois. Andersen, pareil.
Koné, pareil. Jean-Lucas, bon, à voir.
Jean-Lucas, il n'a pas coûté très cher, mais je sens du potentiel chez lui. Hein.
Bah, grave,
à chaque fois qu'il rentre, il met des frappes de loin, il a la vista, il a la grinta, il se bat.
Moi, j'aime bien. Ouais.
À revoir sur la durée. Mais quand tu vois les joueurs, les sauts que l'on a mis, il n'y en a aucun qui a donné satisfaction. Ils sont
Jeffrey Nadelaïd.
Voilà, mais oui, mais il s'est blessé tout de suite. Ouais. Ils sont les coups à la licence.
Mais même Jeffrey Nadelaïd, il a joué combien de temps, Jonathan?
Mais il est quand même intéressant.
Oui, non, mais c'est un très bon joueur, c'est intéressant. Mais toi, c'est vrai que Garcia l'utilisait plus que.
Non, mais tu l'as pris au dernier jour du mercato, tu l'as pas payé si cher que ça.
Je remets pas le potentiel, la qualité du joueur.
Non, mais on va être d'accord, Mehdi et Damien et Nico, c'est que le mercato a été loupé. La révolution a été loupée. Le choix de l'entraîneur a été catastrophique. Juninho, aussi prestigieux soit son nom et aussi prégnante soit son aura. Après tout, il n'a aucune expérience en tant que directeur sportif. Moi, je pense que le fait d'avoir pris Juninho, c'était une idée peut-être un petit peu, voilà, de com pour se mettre les supporters dans la poche. Mais je pense que c'était aussi se vendre un peu court. Je sais pas comment c'est une expression, enfin, je sais pas comment traduire cette expression anglophone, mais se vendre un peu court dans le sens où tu as oublié que t'étais quand même un très grand club français, un club qui doit compter sur la scène européenne. Et quand t'es un club de cette ampleur-là, mettre à ta tête un directeur sportif qui n'a aucune expérience, je pense que c'était peut-être un petit peu du suicide. Au final, je sais pas ce que t'en penses.
Il faut surtout qu'il apprenne, Juninho. Ouais, il faut surtout qu'il apprenne.
Oui, mais bon, non, mais attends, mais dis, je te coupe. Mais apprendre, mais pas à Lyon. Pas à Lyon, dans ce cas-là. Va apprendre à faire tes armes ailleurs et viens après à Lyon.
C'est pour ça que ça aurait été bien qu'il fasse au Brésil d'abord.
Voilà.
Et après revenir chez nous. Mais comme là, à chaque fois, Olas a essayé de le faire venir plusieurs fois. Et comme c'était la saison d'après Genesio, il avait besoin d'une légitimité pour, entre guillemets, remettre un coup au projet, remettre un coup de fouet.
On est d'accord, c'était de la com.
Et de la légitimité auprès de qui, en fait?
Des supporters.
Auprès des supporters. Et bien, c'est là auprès le souci, en fait. C'est qu'il a cédé à, ça,
il a dit dans une interview il n'y a pas longtemps, Damien.
Sur Bruno Genesio,
Sur Bruno Genesio, il a dit, si ça avait été que moi, je l'aurais pas gardé. Après, bon, Genesio, il a quand même fait 3 ans et demi. C'est un beau cycle pour un entraîneur, surtout à Lyon. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait 3 ans et demi, à Lyon depuis qu'Olas est président. Après, le cycle était juste terminé, hein, pour moi, de Genesio. C'est juste qu'à un moment donné, je pense que les deux demi-finales de coupe, notamment celle de Rennes à la maison perdue là, avec un but de Ben Arfa, ça l'a, entre guillemets, ça l'a coupé l'herbe sur le pied, quoi. C'est le match à gagner pour lui.
Mehdi, oui, Genesio n'était pas non plus un super entraîneur.
Hein. Je vais pas dire ça, mais au moins.
Le débat, messieurs. Ouais.
Parce qu'il faut pas embellir.
Allez, les gars, on va pas faire le débat sur Bruno Genesio. Vas-y, ouais. Mehdi, très court.
Mais au moins avec Genesio, de temps en temps, quand tu mets un 5-0 à Saint-Etienne, tu vibres un peu. Là, devant. Là, maintenant, quand tu regardes, tu dis, bon, on vibre.
Vous méritiez mieux et vous méritez toujours mieux que Genesio, Silvino et Garcia.
38 jours face à la Juve en 8e de finale. Hein. Pourquoi pas, mais une défense comme ça va être compliqué. Merci, Mehdi. Excellente soirée.
Merci à toute l'équipe.
Tu reviens
merci
quand tu veux dans l'after, bien sûr. Excellente soirée.
Ciao, Mehdi.
Tiens, t'as Flo qui nous rappelle que Toko Ekambi, c'est le même prix que Haaland quand il a signé au Borussia.
Ouais, ouais.
20 millions d'euros. Même si, on en parlera tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure, les détails, justement, avec Paulo Breitner, puisque Haaland a mis un magnifique triplé pour sa première en match officiel. Avec le Borussia Dortmund, voilà, entrer l'artiste déjà dans le championnat d'Allemagne, lui aussi, phénomène de précocité. Nicolas sera avec nous dans un instant, supporter du FC Nantes. On parlera du FC Nantes et on accueillera Paulo Breitner et on accueillera également Fred Hermel pour évoquer notamment la victoire du Real et la première demain de Quique Setién à la tête du Barça. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain
avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel. C'est l'After, on est là bien sûr comme tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit. Dans quelques minutes, on accueillera Paulo Breitner pour évoquer le triplé de Haaland, A1H et 2A. Triplé, plus jeune joueur à marquer un but dans un nouveau championnat dès son premier match. Triplé pour lui à Haaland, on en parle dans un instant. À 31 jours, je le rappelle, 8e de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Ouais. Quoique la Juve, si la Juve va regarder le match de Cherki, ils peuvent se dire la même chose. Non
oui, on va. Est-ce qu'on va éviter d'être malade
Jonathan,
non,
hein,
c'est ça, c'est putaclic un peu. Ça, c'est,
il y a
c'est
un peu de second degré.
Et alors, on dit quand même, là, c'est pas très Haaland, j'ai un pot de Harissa. Pot de Harissa.
Qu'est-ce que tu fais avec un pot de Harissa, dis donc.
Qui vient du bled. Et c'est Rachid, notre auditeur d'hier, pour ceux qui ont suivi, qui nous avait promis d'amener le couscous, qui a vraiment amené le couscous.
Te trompe pas demain matin, c'est pas de la confiture de.
On va faire les soins pour ceux qui l'ont écouté la première. Il est avec nous et merci Rachid, mon pote.
Merci beaucoup Rachid. Rachid qui est routier et qui écoute l'after depuis quasiment 10 ans sur la route et qui nous a dit demain, les gars, je vous emmène un couscous. Il est venu, il a servi un couscous à la moitié de la rédaction, à 10 personnes.
C'est extraordinaire.
Grâce aussi à sa femme, qui s'appelle comment?
Kaouta,
on l'embrasse.
Tous les deux nous ont concocté un magnifique couscous pour. Bah,
à la base, c'était pour moi et tout le monde a profité.
Non, c'est pas vrai. Il a proposé à tout le monde, Rachid, et voilà.
C'est ça ton problème.
Régalé.
Tu penses qu'à ta gueule, quoi. Les mecs, il a aucun esprit
d'équipe. Mais non, regarde,
sacrifie-toi pour le collectif un petit peu, t'as bien.
On est en train de découvrir Jonathan Bacardi.
C'est incroyable, les gars.
Bienvenue dans le paradis de Jonathan
Bacardi.
Vous le dites à moi? À moi, je serais prêt à donner ma chemise, mon pote.
Allez, stop, on arrête là.
Alors là, ça, j'accepte pas. Et je partagerai ma harissa. Si tu veux, je t'en fais une petite tartine à la sortie.
Merci encore. Pas pour rien qui fait de la boxe, hein, sport individuel.
Nicolas, supporter du FC Nantes, est avec nous au 32-16. Bonsoir, Nicolas.
Oui, bonsoir toute l'équipe. Jonathan, Nicolas, Damien.
Très beau prénom, Nicolas. Très beau prénom.
Je suis d'accord.
Vous étiez combien dans votre classe, Nicolas? C'est pas, non?
Ouais. Bah, non, en Bretagne.
Pas souvent, pas d'autres.
Hein, pas tant que ça. Marc, t'es jeune.
Non. T'as quel âge, Nicolas?
J'ai 22.
Ah oui, donc c'est rare. Ah ouais, Nicolas, 22 ans, c'est comme un Georges à...
Oh, t'abuses. Oh, ça non, fait penser à l'enseigne qui vend à boire, c'est bien.
Ouais, Nicolas, c'est indémodable en marque.
Voilà.
Nicolas, bon, qu'as-tu pensé de la prestation des Nantais ce soir? Battu 4-3 par Lyon. Il y a eu un sursaut de 10 minutes en fin de match.
Ouais, il y a eu un sursaut, mais ce qui était criant, parce que j'étais au stade, et ce qui était criant depuis le stade, c'est vraiment qu'il y a des joueurs, c'est des Casper. Vous n'avez pas fait votre évaluation.
Là, vas-y, tu peux la faire. Vas-y.
Allez, on l'a fait.
Là. Au moins, enfin, là, il y en a beaucoup. Hein. Apia, Traoré, il y en a un paquet des Casper ce soir. Même Touré, qui d'habitude qui est un peu le chouchou parce qu'il est souvent irréprochable, il a quand même été Casper pour les trois quarts.
Il a pris l'eau au milieu.
Et puis, Basila, vraiment, vraiment nul. Et ce qui est vraiment choquant, c'est qu'on finit avec Crine et Giroto en charnière. Faut pas oublier que ces deux-là, quand ils sont venus à Nantes, c'était deux milieux à la base.
Ouais.
C'était pas deux défenseurs centraux. Mmh. Comme quoi, le recrutement, il n'y a pas de cohérence. On voit que c'est pas fait avec c'est le problème quand t'as les entraîneurs qui sont souvent.
Nicolas, Jonathan, je coupe. Tiens, on va écouter la première réponse, les premières réponses du Rudy Garcia en conférence de presse à la Beaujoire.
Amine n'est pas rentré dans des conditions faciles pour lui parce que c'est pas lui qui est mal rentré, c'est les autres autour de lui qui ont commencé à baisser un petit peu, les Ryan, les Martin, à juste titre aussi parce qu'ils avaient beaucoup travaillé. Mais encore une fois, il n'y a pas de problème particulier. L'objectif était de passer avant les prolongues et on l'a fait. Et j'oublie pas que c'est à Nantes, ils sont quatrième du championnat et que c'est une équipe qui est une des meilleures défenses, notamment à domicile.
Rudy Garcia, le coach de l'Olympique Lyonnais, en conférence de presse en direct après sa qualification pour les huitièmes de finale à la Beaujoire. Rudy Garcia.
Mm-hmm. C'est la volonté de le rendre plus efficace, de se perdre moins dans ses dribbles.
Oui, et aussi de le cadrer un petit peu plus facilement sur ses tâches défensives et l'obliger à être plus collectif. Parce qu'effectivement, tout ce qui saute aux yeux ce soir, vous l'avez vu aussi bien que moi, ces deux buts, le pénalty obtenu, les deux passes dés. Mais ça, on sait que c'est un garçon qui a les capacités pour être décisif. Donc, bien sûr que ça m'a plu. Bien sûr que moi, mon rôle, c'est aussi d'abaisser un petit peu les niveaux parce que tout le monde va le porter au nu et ça va être un grand danger si il m'écoute plus, qu'il travaille plus et qu'il pense que c'est arrivé alors qu'il est encore loin du compte. Mais encore une fois, ce qui m'a plu moi, c'est son jeu collectif avec les autres ce soir, ouais. Parce que c'est pas toujours le cas, et ce soir il était intelligent dans ses choix de jeu et ses courses défensives. Donc s'il continue comme ça, il pourra continuer à progresser.
Ouais. Voilà donc la réaction de Rudy Garcia, Nico, concernant Ryan Cherki. Préservons-le. Voilà ce que dit Rudy Garcia.
Je peux dire du bien de Rudy Garcia pour une
bien
fois.
Bien sûr.
Je trouve quand même qu'il a un certain talent, et on l'a vu à l'Olympique de Marseille, pour intégrer des jeunes joueurs à l'équipe et pour les mettre dans les bonnes conditions, pour pas les cramer et pour faire en sorte qu'ils progressent intelligemment. Je pense à Bouba Camara et Maxime Lopez, qu'il a quand même fait débuter, même si Max Lopez avait déjà joué avant. Et ça, faut lui reconnaître qu'il est quand même assez intelligent dans sa gestion des jeunes talents.
Je sais pas si c'est pas justement
avec
être malin
également à Lille, avec aussi,
alors après, c'est les choix sont justifiés parce qu'il mérite certainement de jouer. Mais c'est quand même bizarre que pendant 3 mois avec Silvinho, Cherki n'ait pas une minute et que dès que Garcia arrive, il dit ah tiens allez moi, je vais quand même faire plaisir un peu à tout le monde, à la formation.
Oui, mais c'est malin,
c'est malin aussi. Je pense que les deux sont un peu en connivence.
Allez, revenons au FC Nantes avec Nicolas. Nicolas, tu disais
il y avait un manque de cohérence dans le recrutement, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ont été vraiment en dessous et que même devant. On a tendance à tout balancer sur Simon, quoi. C'est criant. On veut tout passer sur Taïman. Le gardien à la fond, il rebalance tout de sur lui. Tout le temps, c'est que lui.
Tu sais, Nico,
aujourd'hui, je suis défenseur. C'est pas très dur de défendre contre Nantes.
Tu sais, Nicolas, aujourd'hui, moi, j'ai été vraiment surpris par la prestation défensive du FC Nantes. C'est vrai qu'on parle de Bacilla, mais Giroto, franchement, ne l'a pas aidé non plus pour un jeune joueur. Et surtout, on se rend compte, malheureusement, quand on se rend compte les absents du FC Nantes avec Nicolas Palois, et dès qu'un joueur comme ça manque à la défense du FC Nantes, et ben finalement, on se dit que tout n'est pas si carré que ça à Nantes. Et que si t'es en difficulté comme ça, quand il te manque un seul joueur.
Nico.
Mais parce que Giroto faisait une belle saison.
Avec Palois.
Avec un patron à côté.
Parce qu'il était capable de faire des super interventions défensives.
Bien sûr.
Mais dans son placement, il a besoin d'un Palois.
Exactement. Mmh. Alors, je vais juste essayer de te remonter un petit peu le moral, de te mettre un petit peu du baume au cœur. Nantes a fait quand même une première partie de saison qui a été très convaincante en étant très solide défensivement. Ça gagnait 1-0, c'est pas non plus hyper flamboyant. Mais j'ai senti ce soir, alors que bon, défensivement, ils ont été pas bons. Je pense que t'as très justement souligné la faillite de Touré au milieu de terrain, qui d'habitude est un petit peu le taulier du milieu. Mais même Abed aussi, c'est vrai. Mmh. Mais moi, je suis assez séduit par Aymon devant. Je pense que c'est peut-être le joueur qui vous manquait, un joueur capable d'avoir des vrais réflexes d'attaquant sur le but qu'il met. Il fait presque je trouve son déplacement très intelligent, un vrai but de numéro 9 de renard des surfaces. Et c'est justement ce joueur-là qui vous manquait, parce que je trouve que mine de rien, quand on regarde, alors c'est peut-être pas très flagrant parce que ça se traduit pas par des occasions franches, mais non, tu vois, tu te dis à chaque fois, s'il y avait un attaquant qui faisait des meilleurs appels, tu pourrais mettre beaucoup plus de buts.
Effectivement, parce qu'avec la construction qu'on avait, le jeu qu'avait mis en place Marcus, on arrivait à gêner les adversaires et à progresser. C'était dans la surface. Koulibaly, il était pas au niveau et on n'arrivait pas à trouver d'autres joueurs. Simon, il pèse pas sur une défense. Donc je suis d'accord avec toi.
À cause des appels, Nicolas.
Notamment d'Acardi.
C'est ses appels.
Avec Aymon, ça peut être beaucoup mieux. Mais par contre, il va falloir que les joueurs aient un peu plus combiné entre eux, parce que Blas, qui veut tout le temps piquer dans le centre, du coup le ballon il passe jamais à droite. Louza, selon les matchs, il est toujours placé un peu différemment. Donc ça manque aussi un peu de fluidité entre les joueurs
Ce qui est surprenant quand même, c'est encore une fois Aymon, le joueur, ce qu'il nous a montré ce soir, on sent que c'est vraiment le buteur pur. Mais en revanche, c'est vrai qu'on se demande si c'est vraiment compatible avec le système Gourcuff, qui aime impliquer vraiment tous ses joueurs ses 10 joueurs sur le terrain dans la construction, dans le jeu collectif. Et lui, c'est vraiment pas sa qualité principale. Alors c'est un mec qui court beaucoup défensivement, pour faire du pressing, tout ce que tu veux, mais avec le ballon, c'est quand même un joueur.
Je pense que idéalement, dans la tête de Christian Gourcuff, on sait son schéma préférentiel, c'est 4-4-2. C'est le traditionnellement. Là, c'est pas vraiment un 4-4-2 parce que, comme tu l'as dit, ça dépend du positionnement de Louza. Mais je pense que dans sa tête, tu vois, quand tu regardes les équipes qui mettaient Lorient par exemple, t'avais quand même un petit peu ce profil de vrai numéro 9 avec un joueur beaucoup plus mobile qui tournait autour. Je pense à Aliadier, qui est quand même un bon joueur de foot, mais au moment où il est à Lorient, c'est pas non plus, il était pas hyper mobile, il a eu les blessures qui étaient passées par là, et c'était parfois, il ressemblait un petit peu à un plot dans la surface, mais il permettait aux autres de jouer.
Gamero qui jouait avec lui, Gamero, c'était quand même,
Damien, c'est ce que je te dis, je pense qu'il aime bien quand même avoir ce profil-là, mais de lui associer un autre attaquant plus mobile.
Jérémy Aliadier, tu vois, franchement, c'était quand même un joueur de foot.
Et bon, ils ne sont pas avoir les pieds carrés non plus. Hein.
Non, mais.
Il a touché peu de ballon quand même.
Dans ce qui leur sort, c'est vrai que dans la construction de ton jeu, il est présent là où il faut dans la surface.
C'est sa première titularisation, on va attendre devant.
Vas-y, Nicolas, tu peux conclure.
Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas Aymon, c'est Koulibaly qui finit en pointe. Entre Aymon et Koulibaly, moi, mon choix, il est vite fait.
On va attendre un petit peu quand même de voir ce qu'il vaut Renaud Aymon.
Ah oui, mais Koulibaly.
Ouais, tu sais. Il fait des différences, mais il n'est pas efficace, le problème de Koulibaly, c'est ça.
Mais moi, les deux, je les vois compatibles, en fait. Les deux être capables d'être, d'être très complémentaires.
Merci, Nicolas.
De rien.
Excellent.
Merci, Nicolas.
Bonne soirée. Très léger, très vite. Pour une fois qu'on avait un match sans VAR, on a pu se rappeler tous les débats qu'on avait sur l'arbitrage français, parce que ce soir, il n'a pas vraiment réussi à tenir son match.
Il n'y avait pas une petite main à la fin, même.
On n'a pas le ralenti.
J'ai pas revu, ouais, je sais pas.
Sur le corner.
Du stade, c'est dur à voir.
Il y a pas eu de polémique, de scandale, en tout cas, ce soir, sur ce match. La victoire de Lyon qualifiée.
On va pas en parler.
Merci, Nicolas. Excellente soirée à toi. Voilà. Tiens, Nantes qui recevra les gens de Bordeaux le week-end prochain en Ligue 1.
Ah.
Lyon qui affrontera donc Lille.
Atlantique.
Ouais, arrête.
T'es chaud ou pas? T'es chaud ou pas, Nico?
C'est poncif. 350 km/h.
Tu vas mettre ton pull sur tes épaules et un petit peu être devant le match comme un vrai supporter, là?
Un pull sur les épaules? Tu m'as déjà vu avec un pull sur les épaules?
Ah oui, mais dans
non, ah bah c'est
oui.
Pas vrai, c'est pas vrai.
Avec des petites espadrilles même.
Oui, ben jamais tu me verrais comme ça, mon frère.
Ah, non ah mais voilà. Nico Jamon, c'est pas le Cap Ferret, c'est Royon. Hein.
Mais bien sûr, c'est voilà, Royon ou Arcachon, encore, voilà, mais pas Cap Ferret. Avec les Guillaume Canet et compagnie, je leur parle pas à ces gens-là.
T'as un peu une tête d'acteur français à jouer dans des films médiocres comme ça.
Oh là là, mais il est sévère, t'as vu, il est vexé, le garçon.
Les petits mouchoirs ou des merdes comme ça, là.
Lyon-Lille, mardi soir, en Coupe de la Ligue, demi-finale. Et Lyon qui recevra Toulouse le week-end prochain. Pour espérer se rapprocher du podium. Tiens, juste ce tweet de Manu Imourou, vous vous rappelez ce joueur international béninois,
très drôle,
qui joue à Châteauroux notamment, qui dit OK Cherki, en 70 minutes, il a des meilleurs stats que moi en 11 ans de football.
Il est génial.
Il a raison. Bravo. Deux buts, deux passes.
Non, mais t'inquiète pas Manu, maintenant tu joues en R1 donc tu peux peut-être avoir des stats.
Il est où là?
Il joue à Evian Thonon, je crois.
Ah oui, ouais, c'est ça, t'as raison, il relance Evian Thonon.
Juste sur Direct Studio, il y a pas quelqu'un d'autre qui se propose d'amener pour le Renault Tropa vendredi?
Non,
ou
point trop d'infos. D'ailleurs, vous découvrez le visage de Rachid Kem tout à l'heure à la fin de l'émission pour le remercier.
J'aime bien le couscous, j'aime bien les tacos aussi ici.
Voilà, Jonathan Bacardi, tu veux quoi? Du champagne aussi?
Non, du whisky,
hein, c'est des courses. Hein.
Ouais, le whisky a déjà Jean-Marc.
Allez, on revient dans un instant avec Damien Perrinel. Jonathan Bacardi arrive dans l'ordre chronologique. Paulo Breitner, pour parler de Haaland, a tenté un jour du duel en 8e de finale de Ligue des Champions, Borussia PSG. Arrivera après lui Fred Hermel pour évoquer la victoire du Real, le doublé de Casemiro et également la première demain de Quique Setién, le nouveau coach du Barça. Que va-t-il faire de Griezmann? Sur un côté ou dans l'axe?
Ouais.
Hein, on en parle dans un instant. L'after à l'âge qui est minuit. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Nicolas Jamma.
Avec Jonathan Bacardi, avec Damien Perrinel. L'after est là encore pendant 20 bonnes minutes pour évoquer le Conor
McGregor
à l'étranger. Vas-y, maintenant que ça s'est fait.
Non,
musique.
Ouais. RMC Sport 4, le retour de Notorious Conor McGregor.
Pour le coup, c'est l'événement là.
Contre Cowboy Cerrone.
La dernière fois qu'on l'a vu, il s'est fait punir par Khabib Nurmagomedov. Donc voilà.
Punir, c'est très gentil. Si. Ça, c'est une analyse de MMX.
J'aime bien MMX. Je fais du MMX.
Sauf qu'en fait, c'est la différence du football.
Il s'est fait punir, excuse-moi.
À la différence de certains sports, tu peux pas parler de sport de combat tant que tu t'es pas pris un vrai pain dans la gueule. Est-ce que tu t'es déjà pris un vrai pain dans la gueule, Nico?
Non, j'en ai mis un paquet. Non, c'est pas vrai. Je suis totalement passif. Non, mais c'est vrai, hein, jamais je me suis battu dans ma vie.
C'est vrai.
Je refuse de combat. Bah, c'est je l'autre joue quand on me tape.
Oh non, mon petit biquet.
Damien, t'es déjà battu sur un terrain?
Sur un terrain? Non, pas sur un terrain. Non, mais sur un ring, j'ai fait un peu
ouais,
de boxe.
Ouais,
fait
la boxe.
Ouais, je m'en suis pris 2-3 bonnes, ça fait du bien.
Bah, bien sûr que ça fait du bien.
Bon, l'apologie de la violence, les gars, c'est pas nécessaire.
Non, c'est en place.
C'est sur un ring.
Je suis pas sûr que Polo soit d'accord avec vous. Salut, Polo Breitner.
Bonsoir, messieurs. Je vous souhaite avant tout une bonne année.
Ben
et
oui.
Je rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise violence. Il n'y a que de la violence. Sam Peckinpah, grand réalisateur américain.
Merci, Sam Peckinpah. Merci d'élever le débat, effectivement, ce soir à l'after. Polo! Bon, oui. Première grosse émotion en 2020. Je sais pas, hein, c'est la première d'ailleurs, en Bundesliga.
Ouais.
Le Borussia Dortmund a gagné. Mais c'est pas ça qui est important. Enfin, qui est intéressant, en tout cas, qui est spectaculaire. Même si l'évolution du score est intéressante face à Augsbourg. Le Borussia a gagné notamment grâce à un triplé de son nouveau joueur.
Bah, on serait presque tenté de dire de grâce à son nouveau joueur, parce que la première mi-temps a été assez catastrophique. Depuis mon retour sur RMC, j'arrête pas de dire ce qu'a dit justement Lucien Favre, c'est qu'on va passer en défense à 4 et finalement il commence dans une défense à 3 à cause des blessés. Rappelons que Paco Alcacer n'était même pas là, par exemple. On suppose qu'il est en instance de transfert, je ne sais où. Donc Haaland n'a pas commencé le match, il était sur le banc. Rappelons qu'il avait été blessé un petit peu début janvier lors de son stage à Marbella, et en fait il a qu'une seule vraie semaine d'entraînement avec son équipe. C'était assez catastrophique défensivement. On a retrouvé le Borussia Dortmund de l'année dernière, en fait. On l'a quitté extrêmement fébrile, qui manquait aussi des occasions, qui s'en procurait, mais qui les manquait. Et puis, il a fallu que Lucien Favre, chose qu'il fait assez rarement, disons-le, change avant l'heure de jeu et ramène son attaquant, donc le petit prodige de 19 ans. On change complètement tactiquement, puisqu'on passe évidemment dans une défense à 4. Donc, on retrouve le 4-2-3-1 qu'on devrait voir logiquement dans un mois contre le PSG. Et là, il se passe quand même 3 buts en 20 minutes.
Polo, l'animation, enfin, c'était qui, ouais, du coup?
Alors, l'animation, c'est Marco Reus qui est derrière, Sancho à droite, et puis plutôt Eden Hazard à gauche. Enfin, ça permet de beaucoup
des
deux côtés. Et Thorgan Hazard, oui, pardon. Ouais.
Polo, je vais te raconter mes émotions de l'après-midi. Donc, je regarde la première mi-temps, en effet, de ce Dortmund-Augsbourg, et je me dis, mais Dortmund, défensivement, c'est catastrophique en point de vue de la vitesse avec. avec Piszczek qui se fait prendre dans le dos à chaque fois.
Exactement.
Et puis donc je zappe et je regarde forcément un match de Coupe de France et je reviens à la 60e et là je vois quoi ? 3 partout alors qu'il y avait 1-0 à la mi-temps. Et c'est non mais c'est incroyable franchement cette équipe du Borussia Dortmund. Et donc en effet le réajustement tactique en 4-2-3-1 et encore Marco Reus qui a vendangé qui n'a pas été bon aujourd'hui hein, mais par contre Hazard, Sancho, Haaland, ça peut faire très mal.
Alors voilà, Haaland, on n'avait pas encore prononcé son nom. 3 buts en 20 minutes, les gars.
Ouais, 3 buts en 20 minutes, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, il a 3 occasions, il en met 3, c'est pas compliqué. Donc, ses statistiques à ce niveau-là sont assez intéressantes. C'est-à-dire que, il y a que, je crois, dans l'histoire de la Bundesliga, il n'y a que 7 joueurs qui ont marqué, ouais, qui ont marqué alors, pour leur première.
Moi, je crois que j'avais 5 joueurs et c'est le premier joueur qui, pour son premier match d'un nouveau championnat, met un triplé dès sa première rencontre.
Attends, une petite question.
Et il fait comme Aubameyang, excuse-moi, Jonathan.
Ouais, c'est ça, c'était Aubameyang. Avant, qui était. Alors, on lui souhaite évidemment la même carrière en Bundesliga avec le Borussia Dortmund qu'Aubameyang. On lui espère même mieux. Mais ce que tu disais, Damien, est très important parce qu'en fait, bon, moi, j'ai eu quelques informations cet hiver, comme quoi il y a un défenseur central, je ne dirai pas son nom, qui est quand même fortement demandé à partir à la fin, enfin cet été quoi, l'été prochain. Le passage en défense à 4, je pense, va solidifier un petit peu tout ça, mais moi j'ai jamais vraiment cru dans cette défense à 3. Puis rappelons quand même que Piszczek, il est là pour dépanner, parce que Zagadou a eu un petit problème musculaire alors qu'il devait être titulaire, mais il est fort possible, enfin de toute façon dès la semaine prochaine on va passer en 4-2-3-1. De toute façon il faut absolument qu'il commence à titulariser Haaland, ce qui sera une des questions d'ailleurs, parce que Lucien Favre, la première chose qu'il a dit en conférence de presse, et quand les journalistes notamment de Sky l'ont interrogé, c'est oui, alors Haaland, on le titularise et tout ça, il dit oui mais il est jeune, il est ceci, on peut pas le faire.
Non.
Voilà, donc ça c'est Lucien Favre, il est comme ça, on peut pas le changer. Le problème c'est que quand un joueur met enfin il a changé l'image de l'équipe, faut pas non plus l'oublier. Ça fait plaisir évidemment, mais moi je me mets aussi à la place de Lucien Favre. Cette première, ou ce que tu as dit Damien, cette première période, c'est pas possible.
Ouais, d'accord.
Même si Augsbourg évidemment est une équipe qui pouvait espérer beaucoup mieux, notamment parce que on pensait qu'ils pourraient jouer la relégation, et puis finalement ils ont fait un très beau parcours l'année dernière. Donc ils pouvaient même espérer l'Europa League, mais ça devient c'est chronique le problème là. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il y a pas un joueur qui sort du lot, c'est-à-dire que tu te dis Witzel, il va essayer de les motiver parce que c'est le trentenaire, Marco Reus c'est pareil, il plonge. Quand le Borussia Dortmund ne va pas, il n'y a pas un joueur qui arrive à le mobiliser.
Tu te souviens du match que, on s'en souvient forcément, mais contre Leipzig, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils sont flamboyants pendant une mi-temps, ils peuvent te mettre 6 buts, mais la deuxième mi-temps ils peuvent en prendre, et puis ils se font harakiri quoi, c'est-à-dire qu'ils se mettent en danger tout seuls.
C'est ça depuis le début de la saison, c'est un peu dommage. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué que vous vous rappelez que l'année dernière, Lucien Favre a été un peu en danger. Il y a des raisons pour ça. La statistique, elle est arrivée bien après. Mais en fait, vous savez, il est là depuis 18 mois. Et en fait, sur les 6 premiers mois de l'année, donc il y a un an, il avait fait 42 points lors des matchs allés de la saison dernière. Lors des matchs retour, il avait fait 34 points. Et là, pour les matchs allés, les matchs retour, l'année dernière, il a fait 34 points. Et pour les matchs allés, il en est qu'à 30, là. C'est-à-dire qu'on est vraiment quand même dans une logique de descente où Borussia Dortmund, malgré un effectif, je continue à le dire, qui est vraiment de qualité. Moi, j'ai rarement vu un effectif du Borussia Dortmund aussi bon que ça. Il faut peut-être remonter à les années 90, à l'époque où ils ont remporté la Ligue des Champions. Je pense que cet effectif-là, aujourd'hui, est largement supérieur à celui qui a été finaliste de la Ligue des Champions.
Ouais,
quand je t'écoute, Polo, j'ai l'impression que, côté supporter parisien, t'es pas hyper inquiet, en fait. Cette équipe est tellement capable du meilleur comme du pire que finalement le PSG a beaucoup plus de solidité, de stabilité que le Borussia aujourd'hui. Ça, on le savait évidemment.
Non, mais le seul point qui peut, à mon avis, mettre un petit peu en danger le PSG, du moins sur le papier, c'est sur les côtés, parce que je trouve que Dortmund est très fort sur les côtés, et on sait que c'est un petit peu le point faible défensivement du PSG, c'est ses latéraux.
Bah, le problème, c'est que les Sancho, c'est vrai qu'ils peuvent faire. Le problème, c'est quel Dortmund on va avoir, quoi. Moi, je le dis tout le temps, l'arrivée, le retour plutôt de Thomas Tuchel à Dortmund va quand même être un facteur important, parce que c'est quelqu'un qui est parti pas en bon terme avec ses dirigeants ni avec les supporters. Donc moi, je sais pas. Enfin, c'est pas Jürgen Klopp qui va revenir là-bas, quoi. C'est pas. On est dans un effet où c'est même pas contre le PSG. Je pense qu'il va y avoir dans les tribunes.
T'as raison.
Peut-être,
et Polo,
oui.
T'as raison, et je pense que vu la fébrilité et le manque de confiance affiché par Thomas Tuchel depuis qu'il a pris le Paris Saint-Germain, je pense que ça peut vraiment l'impacter.
Moi, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'apporte. Mais maintenant, je ne sais pas. Je suis dans l'incapacité. J'aimerais vous dire que ouais, ça pète dans tous les sens Dortmund. Moi, je le vois. Il y a des moments pendant 60 minutes, c'est extraordinaire. Enfin, tu vois les matchs, ça tourne dans tous les sens, ça circule, le ballon circule comme il faut, ils se trouvent tous. Et là, enfin, c'est le gamin qui rentre, quoi, avec ses 1m94. Il fait 3 appels de balle. Enfin, il y a 2 appels de balle. Il y a 2 buts. Il ramène. C'est lui qui fait tout seul. Et Marco Rose derrière est complètement absent.
Même en passant à 4 défensivement, il me semble quand même trop juste pour résister à la puissance de frappe parisienne, quoi.
Bah, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent en marquer à Paris aussi. Quoi.
Ouais, c'est ça. Tu peux partir sur un 4-3 au match aller et sur un.
Écoutez, quand j'ai un match
retour. Peuvent en marquer à Paris. Paris, même si vous savez que je suis pas non plus le plus grand défenseur du Paris Saint-Germain, mais leur défense, elle est quand même assez solide, quoi. Tu vois, leur charnière centrale, elle tient quand même là.
Ouais, mais les latéraux, voilà.
Bah, c'est
ouais.
ça, c'est ouais. ce que je te dis. Le point où ils sont sur les côtés.
Une dernière chose sur ce match, parce qu'on parle de Dortmund, mais Augsbourg, une équipe qu'on ne connaît pas ici en France. Mais quand tu vois l'allant avec lequel ils ont joué cette première période, c'est incroyable. Non mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est-à-dire que tu vas recevoir Dortmund chez toi, t'es 10e au championnat, et mais tu vas jouer avec un état d'esprit, c'est exceptionnel. Je me suis régalé moi pendant cette
première période. Vous avez vu ce qu'il a dit en zone interview, en zone mixte, Haaland après son match?
Non.
Il est allé en zone interview, il a regardé les journalistes, il leur a dit alors, vous m'avez trouvé comment les gars? C'est un personnage, oui, hein, Polo, ce mec, hein.
Oui, oui, c'est assez intéressant, mais aussi il le dit parce qu'il a pas été titularisé depuis le début au début de la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, Lucien Favre faisait comprendre qu'il était pas à 100%, et donc en fait, il lui répond. Ouais. Moi, j'aime bien ce genre parce que c'est le neuf, il est là pour marquer des buts, donc il veut jouer tous les matchs, il veut bouffer tous les ballons. Donc ça, moi, j'aime ça. Vas-y.
Non, je disais, rappelle-nous, tu me corrigeras si j'ai tort, mais il a choisi Dortmund, pas justement, il avait pour être titulaire.
En fait, moi, les informations que j'avais, c'est qu'il devait plutôt se balader du côté de Leipzig plutôt que Dortmund. Et en fait, il y a trois phénomènes qui sont importants. Un, Nagelsmann est très content de ses attaquants, donc il ne voulait pas spécialement prendre Haaland. La deuxième paramètre qui est très très important, c'est que le budget de Leipzig, on nous parle toujours de Red Bull, mais il n'est pas extensible non plus. Je parle sous le contrôle de Damien. Il y a quand même des progrès à faire, etc. Et la troisième chose, c'est qu'il le préférait l'été prochain et non pas tout de suite hiver. Donc voilà, c'est pour ça on lui a vendu la place. Le problème que j'ai, moi,
c'est tu réfléchis pas quand tu peux avoir Haaland, tu le prends en fait. Enfin,
mais non, mais regarde,
20 millions d'euros.
Mais non, Nico, je suis pas d'accord.
19 ans,
toi.
Le gamin, 31 buts en 23 matchs cette saison.
Je suis pas d'accord. Aujourd'hui, t'as le meilleur buteur de Bundesliga dans ton équipe. T'es premier du championnat. T'as tout qui roule. Qu'est-ce que tu vas mettre un grain de sable peut-être dans une saison où tu peux être champion.
Je sais pas.
Champion. Alors prends-le l'été quand t'as vendu Werner, si tu veux. Voilà, mais prends-le l'été. Mais là, tu peux pas le prendre. Oui.
Ouais, mais sauf que c'est le pays, ils le verront jamais, sûrement, Haaland.
Ouais, c'est pas grave, mais peut-être qu'ils ont un titre de champion.
Peut-être. Voilà pour le phénomène Erling Haaland. On va voir. Hein. T'as vu ce qu'a fait Cherki en France aussi? On a un phénomène, Polo. Hein, tu sais, hein.
Il sait même pas qui c'est.
Ouais. Je sais pas qui c'est.
Non, mais tu rigoles, quoi, Polo, quand même.
Je suis désolé, je suis allé trop
loin. Intéresse-toi un peu à ton pays, quand même. Il est stéphanois.
Oui, oui, beaucoup.
Bah oui, c'est pour ça que ça.
T'as souffert cet après-midi avec Saint-Etienne, mon Dieu.
Oui, mais on souffre, c'est juste.
Non, mais t'as pas des portes de sortie pour Mvila et Colo et compagnie, là?
Non, mais si tu veux, à Saint-Etienne, alors je vais plus jamais être invité. En fait, j'ai été invité deux fois à Saint-Etienne pour aller voir les matchs. En fait, maintenant, même quand ils m'invitent, j'y vais pas. Quoi. Donc,
ah ouais, d'accord. Ouh là là, mince.
Bon, merci. Non, mais changeons.
Courage, Polo, courage.
Toi aussi, comme Colosseum, on te verra de moins en moins, comme l'a dit Puel, à Saint-Etienne. Bonne soirée, Polo.
Ciao, Polo.
Merci. Salut,
pendant 31 jours, on a lancé l'opération Mission to Dortmund. Voilà. Tu vas bosser tous les jours, hein. Aucun jour de repos.
Oui. Oui.
Sinon, tu récupéreras l'été prochain, après l'Euro.
Quand la MS va sortir en quart, en demi, je sais pas.
Merci Polo, excellente
soirée. Ciao Polo.
Ciao.
On va descendre un peu plus au sud. On va dans la capitale espagnole. Capitale surélevée, légère altitude. Madrid. Bonsoir Fred Hermel.
645 mètres d'altitude. La capitale la plus haute d'Europe après Andorre-la-Vieille.
Bah tu vois, si c'est l'after. Ouais,
hein, Ticos.
Salut.
Comment ça va, mon Fredo?
Bah très très bien. On a eu un peu froid à Bernabéu aujourd'hui, mais que voulez-vous, hein, tu sais.
Mais toi, t'as le droit du championnat. Nous, on est encore en Coupe de France, tu vois là. On enchaîne les matchs de Coupe de France. T'as vu un Real Madrid qui s'imposait 2-1 avec un doublé de Casemiro.
Bah c'était un match très très compliqué. Bon, on s'y attendait. Enfin, Real Madrid Séville. Enfin, Séville, c'est l'une des meilleures équipes de la Liga, qui a vraiment bien emberné les Madrilènes en première période. Ça a été, c'est-à-dire que physiquement, ils avaient un peu plus d'impact, les Sévillans. Et surtout, enfin, Lopetegui. Et c'était le grand retour de Lopetegui. Vous vous souvenez qu'il y a un peu plus d'un an, s'est fait salement, on va bien le dire, virer du Real Madrid, et qui est revenu et qui a été très classe, et le public l'a applaudi. Donc, voilà, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais sur le terrain, 1. On a vu un Séville qui a bien dérangé les Madrilènes. Et il a fallu, comme Benzema, il revenait de blessure, il est rentré qu'à une demi-heure de la fin. Comme Bale, il a toujours un petit problème. Il n'était pas convoqué. Comme Hazard est toujours blessé. Comme Ramos n'était pas là. Comme Valverde s'est suspendu. Ça n'a pas été évident pour le Real. Et dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un qui apparaît. Et ce soir, premier doublé de sa carrière, Casemiro. Je sais pas si vous avez vu son premier but.
Le premier but est exceptionnel. Quel doublé.
Damien, petite balle piquée sur le gardien, on a besoin de Ramiro 9, quoi.
Ah ouais, exactement.
Il y a la passe de Jovic aussi sur l'autre qui est le but qui est
tout à fait. Une belle talonnade. Et Casemiro ensuite une belle tête pour le 2-1. Un match compliqué avec une polémique autour du VAR. Et vous vous souvenez de Monchi? On a beaucoup parlé de lui. À un moment,
bien sûr.
Je me souviens, un jour, j'avais parlé avec lui. Il était vraiment intéressé par le Paris Saint-Germain. Ramon Rodriguez dit Monchi, le meilleur présenté comme le meilleur directeur sportif, en tout cas le meilleur recruteur de toute l'Europe.
Ancien de la Roma, aujourd'hui à Séville.
Et qui est revenu. Enfin, il a fait un petit passage en Italie et il est revenu chez lui. Et il est bien plus utile et beaucoup plus admiré et respecté ici. Mais il se trouve que Monchi a même dit, si jamais notre deuxième but avait été annulé par le VAR, j'aurais demandé à mes joueurs de quitter la pelouse.
Ouais, c'est
un peu l'émir du Koweït, vous vous souvenez? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier but a été marqué par Séville, annulé pour une faute sur Militao. C'est vrai que quand on voit les images, on voit bien qu'il y a une belle obstruction et qu'il y a un petit coup d'épaule, quoi, assez puissant. Et le deuxième but de Séville, la deuxième tentative de but qu'il a été accordée pour le 1 partout à ce moment-là.
Il aurait pu avoir main.
Mounir, il tombe et le ballon, il se maintient avec le coude. Voilà, c'est toujours un peu bizarre les discussions autour du VAR. Mais en tout cas, on peut quand même dire que le Real Madrid a été de nouveau très très solide. Et cette équipe, puisque le Barça joue demain
contre Grenade.
Contre Grenade, avec un nouvel entraîneur. L'équipe du Real est leader ce soir à 3 points d'avance.
3 points d'avance. On en parle. Rapidement, l'Atlético battu ce soir par Eibar. En 30 secondes, dis-nous pourquoi.
Pourquoi ? Parce que la grande star João Félix fait un match lamentable, parce que le buteur Diego Costa, il est blessé, il ne revient pas au moins avant le mois de mai, parce que l'Atlético crie, et l'entraîneur crie, hurle, je veux Cavani.
Est-ce
qu'il va pouvoir l'avoir ? Ça va être compliqué.
Nos infos justement, c'est pour ça que je t'amène là-dessus. Le PSG a bien reçu une offre de 10 millions d'euros là, ces dernières heures, de l'Atlético de Madrid. Offre refusée par le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si on va insister au-delà du côté de l'Atlético, Fred.
C'est-à-dire que c'est pas une question. Je pense que si l'Atlético a du mal à comprendre que ce n'est pas une question d'argent, mais une question de volonté du Paris Saint-Germain.
Le joueur veut.
Oui, le joueur veut, mais on voit. Moi, avec les Espagnols, j'aurais souvent posé la question. Enfin, quand ils m'ont posé la question, je leur ai dit, vous avez vu ce qui s'est passé avec Neymar cet été? C'est pareil qu'Cavani. C'est-à-dire que quand Leonardo dit, le joueur reste, le joueur reste. Voilà, c'est tout.
Voilà.
Il a un contrat.
Le
retour de l'autorité au Paris Saint-Germain.
Le PSG en a besoin de toute manière. C'est pas dans leur intérêt de s'en séparer.
10 millions d'euros ou rien dans 6 mois, c'est pas grave.
Rappelez-vous le match retour contre Manchester sans Cavani blessé, sans Neymar, sans avec
Mbappé. Ils ont rien besoin. Le PSG a raison.
Mais c'est exactement ce qu'on disait, l'autorité de retour au PSG, et c'est très bon pour cette équipe.
Exactement.
Mais attention à l'Atlético qui devrait pas essayer de recruter Cavani jusqu'à la dernière minute et d'oublier qu'il doit absolument trouver quelqu'un d'autre.
Ne pas s'entêter.
Il y a d'autres pièces sur Cavani.
Alcacer.
Pas Colcaser,
il est espagnol, les gars, ça serait une bonne idée. En
fait. Fred, il nous reste 1 minute 40 pour parler du Barça demain. C'est un moment attendu, effectivement, première du nouveau coach à Barcelone, Quique Setién. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va faire de Griezmann. Il était en conférence de presse aujourd'hui, il en a parlé sur le rôle qu'il va donner à Griezmann.
Ouais, mais moi, j'attends.
Dans l'axe ou sur un côté toujours?
Mais moi, j'attends de voir demain, quoi. Voilà, parce que.
Dur à dire.
C'est dur à dire.
Il n'y a pas sous-entendu qu'il pouvait le mettre dans l'axe quand même?
S'il n'y a pas Luis Suarez et que Griezmann n'est pas dans l'axe, c'est que vraiment ils ne veulent pas qu'il reste au Barça. Je pense que c'est un tournant énorme pour le Barça, puisqu'il y a un nouvel entraîneur, mais surtout énorme pour l'intégration d'Antoine Griezmann. Donc quel système il va y avoir demain? Un 4-3-3 avec Messi à droite, Ansu Fati à gauche et Griezmann en pointe? ou un 4-4-2 avec Messi et Griezmann devant. Voilà, enfin, je ne vois pas trop ce que pourrait faire l'entraîneur. Donc, on va voir ce qui va se passer demain. Mais pour moi, le test, c'est pas, sincèrement, c'est pas jouer contre Grenade au Camp Nou.
Ce sera quand il y aura tout le monde en plus. Quand tu vas faire à la disposition, enfin, voir
le test, c'est dans une grosse semaine quand ils vont à Valence. Là, on va voir ce que vaut ce Barça avec le nouvel entraîneur. Sincèrement, même s'ils avaient perdu à Grenade le Barça en début de saison, demain, Grenade à l'extérieur, avec l'arrivée, l'effet du nouvel entraîneur, les joueurs qui se motivent toujours un peu plus, ça devrait passer. Mais on va voir ce qui va se passer dans une semaine à Valence. Et bien entendu, on le racontera dans l'after.
Ce sera évidemment un premier gros test pour Kouké Sétienne. Merci, Fred.
Salut, Fred.
Adios, Ticos.
Salut, Fred. Merci. Tu reviens très vite, bien sûr, à un mois maintenant de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Merci, Damien.
Merci.
Merci pour ce week-end. Merci, Jonathan.
Pour ce moment, Damien.
Merci à Rachid également. Rachid, très vite. Viens, dans le micro, Jonathan. T'as vécu un grand moment, un bon moment, pardon.
Au top, équipe au top, merci de m'avoir reçu. Ils m'ont fait visiter tous les studios, les locaux, et à la prochaine, c'est un autre plat à l'occasion.
Rachid, excellente soirée à tous, les Afteriens évidemment. À très vite, retour de l'After demain soir avec Gilbert. Bonne soirée, bye bye.
Salut.
RMC, l'After Foot.